Radio Okapi. Le journal Blaise Jindani Kabala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, l'OMS appelle toutes les parties en guerre dans l'est de la RDC à accepter un cessez-le-feu afin de faciliter la riposte contre la maladie à virus Ebola. Son directeur général rappelle que la souche Ebola Bundibugyo ne dispose d'aucun vaccin ni traitement approuvé. Selon lui, stopper la transmission dépend entièrement de l'accès humanitaire indispensable pour atteindre les populations touchées. Les députés de l'opposition ont boycotté les travaux consacrés à l'examen de la proposition de loi relative au référendum examiné hier au Palais du Peuple. Malgré ce retrait, les députés de la majorité ont poursuivi la séance et ont approuvé sous réserve d'amendement les conclusions du rapport de la commission PAJ. Véron Mosengo Omba a été élu le mercredi 20 mai 2026 président du nouveau comité exécutif de la FECOFA. À peine élu, il a promis une réforme en profondeur pour relancer un secteur fragilisé par des crises récurrentes de gouvernance. Dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi, les intervenants ont analysé les défis qui attendent le nouveau comité exécutif de la Fédération Congolaise de Football Association. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Lutte contre Ebola. Le patron de l'OMS appelle toutes les parties en conflit dans l'est de la RDC à accepter un cessez-le-feu. Objectif, faciliter la riposte contre la maladie. Dans une déclaration publiée hier mercredi sur son compte X, le docteur Tedros Adhanom estime que l'est du pays fait face à une collision catastrophique entre les maladies et le conflit armé, avec une épidémie d'Ebola en Ituri qui dépasse désormais les capacités de réponse. Plus de détails dans ces condensés dans les Irung, rendu par Benjamin Mudumbi.
Les patrons de l'OMS expliquent que le virus Ebola Bundibugyo n'a pas de vaccin ni de traitement approuvé. L'arrêt de cette transmission d'Ebola dépend entièrement de l'accès humanitaire. Pourtant, les affrontements en cours conduisent à des déplacements massifs, poussent les contacts exposés dans des camps surpeuplés et coupent les couloirs de confinement critiques. Les travailleurs de première ligne risquent tout, tandis que les attaques contre les établissements de santé rendent les suivis des cas et de leurs contacts presque impossible. Nous ne pouvons pas établir la confiance communautaire ou isoler les malades pendant que les bombes tombent, affirme Dr Tedros Adhanom. Nous exhortons toutes les parties en guerre à accepter un cessez-le-feu immédiat pour contenir cette épidémie, pour nous permettre un accès sûr et soutenu aux équipes médicales. Nous plaidons pour donner la priorité à la survie humaine avant tout le reste, conclut le numéro 1 de l'OMS.
Entre-temps, le gouvernement canadien vient de frapper fort. Il suspend pour les 90 prochains jours l'entrée sur son territoire des ressortissants de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Cette série de mesures restrictives a été annoncée hier mercredi. Dans un communiqué consulté par Radio Okapi, Ottawa explique avoir décidé de geler temporairement la délivrance des documents d'immigration aux résidents des pays considérés comme à risque élevé ou très élevé d'éclosion. La mesure est entrée en vigueur ce mercredi 27 mai. Détail avec Jean-Désiré Kanyama.
Ottawa justifie cette approche de précaution par la gravité de la maladie et par le contexte international marqué par le démarrage imminent du mondial de football. En clair, les détenteurs d'un visa de résident temporaire, d'une autorisation de voyage électronique ou d'un visa de résident permanent déjà approuvé ne pourront pas se rendre au Canada. Aussi, le traitement des nouvelles demandes émanant des résidents de ces trois pays est gelé sous la même période. À ces restrictions s'ajoute un volet sanitaire. Du 30 mai au 29 août 2026, les citoyens canadiens, les résidents permanents ainsi que les ressortissants étrangers ayant séjourné dans les zones à risque au cours de 21 derniers jours seront soumis à une quarantaine de 21 jours, cela même en l'absence de symptômes. Par ailleurs, les autorités fédérales précisent qu'elles continueront de suivre l'évolution de la situation épidémiologique au Canada comme à l'étranger et ajusteront les dispositifs en conséquence. Elle rappelle que les mesures frontalières sont susceptibles d'évoluer à tout moment et invite les voyageurs à consulter le site voyage.gc.ca avant tout déplacement.
Par ailleurs, le gouvernement canadien souligne que le risque pour sa population demeure faible. Aucun cas importé d'Ebola n'a jamais été enregistré au Canada et aucun cas n'est actuellement signalé en Amérique du Nord. Face justement à la progression de la nouvelle flambée d'Ebola en République démocratique du Congo, la Croix-Rouge de la RDC, en collaboration avec la CICR et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s'est réunie autour d'une même table. Ces organisations ont passé en revue l'évolution de l'épidémie, la coordination des interventions ainsi que la mobilisation des appuis nécessaires à la riposte diplomate. Partenaires humanitaires et représentants de plusieurs institutions ont pris part à ce briefing diplomatique organisé hier mercredi à Kinshasa. Le point avec Christian Makasinga.
Devant les participants, la Croix-Rouge a présenté les actions déjà menées dans les zones affectées, notamment la communication de risques, la surveillance communautaire ainsi que les enterrements dignes et sécurisés. Au-delà des interventions sanitaires, la question de la confiance des communautés demeure également un défi majeur. Pour Gloria Lombopolo, secrétaire générale de la Croix-Rouge de la RDC, la réponse repose à la fois sur les activités communautaires et sur un réseau de volontaires présents au sein des populations touchées.
La Croix-Rouge de la RDC se base sur l'ancrage de ses volontaires. Ces volontaires sont des membres de ces communautés affectées. Ils vivent dans les communautés, connaissent aussi, par exemple, les rituels, les traditions de communautés. Le fait qu'ils soient déjà les membres de la communauté ouvre la porte à la Croix-Rouge d'aller dans les sensibilisations, que ce soit de masse, de porte à porte.
Cette rencontre a été également marquée par un moment d'émotion. Un hommage a été rendu aux trois volontaires de la Croix-Rouge récemment décédés.
Au nom de la FICR, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la direction de la RDC Croix-Rouge, aux familles trois volontaires et à l'ensemble de la famille de la Croix-Rouge.
À travers ces briefings diplomatiques, les organisateurs espèrent renforcer les partenariats et mobiliser davantage d'appui pour accompagner la riposte en RDC.
À Kindu, dans le Maniema, les musulmans qui ont célébré hier mercredi la fête de la Tabaski n'étaient pas en reste. L'imam a appelé les fidèles à continuer de prier pour le pays tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières pour faire face à cette maladie meurtrière. Il a également rappelé l'importance du partage, un principe au cœur de cette fête, partager les repas du jour avec les vulnérables, les voisins et même la famille élargie. Écoutons l'imam urbain de la communauté musulmane du Maniema, Cheikh Akanda Bouamouini, est au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de célébrer la fête des Tabaski aujourd'hui, la fête des moutons qui est la commémoration de l'acte de la foi posé par le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam qui a accepté de sacrifier son fils Ismaïl pour son Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Nous profitons de cette même occasion pour interpeller tous les musulmans en général et les non-musulmans sur l'observance des mesures barrières, l'observance des conseils des agents de la santé pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola qui est une maladie meurtrière qui est presque dans nos portes de la province du Maniema. Au finish, nous interpellons tous les musulmans de continuer à prier pour la paix de notre pays. Bien évidemment, l'épidémie à virus Ebola que les autres considèrent comme une imagination, comme un mythe, c'est une réalité et que nous devons prendre à cœur cette maladie, nous devons prendre à cœur les mesures, en fait, les conseils des agents sanitaires, notamment les mesures barrières, la distanciation et pour lutter contre cette épidémie meurtrière.
Chapitre politique à présent et cap sur l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Le groupe parlementaire de l'opposition Ensemble dit non à toute démarche visant à changer la Constitution. Et ce, au moment où la majorité au pouvoir poursuivait l'examen de la proposition de loi sur l'organisation du référendum. Ce seul groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale a donc annoncé la suspension de sa participation aux travaux liés à ces textes. Dans une déclaration politique faite hier mercredi à Kinshasa, ces députés dénoncent ce qu'ils considèrent comme une démarche visant à changer la Constitution en violation de celle-ci dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans l'est du pays, ont-ils déclaré. Ces élus interpellent également le président de la République sur cette initiative qu'ils jugent dangereuse pour l'unité nationale. On écoute Christian Moindo, président du groupe parlementaire Ensemble, dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le Haut-Uele. Vu que deux provinces de notre pays, le nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège, attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature, considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que le changement de la constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur le référendum sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays.
Malgré le boycott de la plénière par les députés de l'opposition qui ont quitté l'hémicycle, l'Assemblée nationale a poursuivi ce mercredi l'examen de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en RDC. Les députés de la majorité ont approuvé sous réserve d'amendements les conclusions du rapport de la Commission politique, administrative et juridique, la PAJ, chargée d'examiner le texte en profondeur. Porté par les députés Paul Gaspard Ngondankoy, élu de Yaouma dans la Tchopo, cette réforme vise à redéfinir le cadre juridique du référendum en RDC, ses conditions d'organisation, mais aussi le rôle de ces institutions dans le processus. Le texte entend remplacer la loi de 2005, jugée aujourd'hui dépassée, afin de mieux encadrer les futures consultations référendaires. Les détails avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Déclarée recevable le 30 avril dernier, cette proposition de loi vient de franchir une nouvelle étape. Selon le texte, la décision de convoquer un référendum revient exclusivement au président de la République par ordonnance présidentielle. Le scrutin est organisé par la commission électorale CENI conformément à la loi électorale. En cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le chef de l'État peut également mettre en place une commission nationale multidisciplinaire chargée d'identifier les dispositions constitutionnelles jugées inadaptées. Si une majorité se prononce en faveur du changement des règles constitutionnelles proposées, le président de la République soumet alors un projet de loi de changement constitutionnel à l'Assemblée nationale et au Sénat, réunis en Assemblée constituante spécialement à cette fin. Le texte prévoit que le projet de changement de la Constitution doit être adopté à la majorité des 3/5 des membres de cette Assemblée constituante avant d'être soumis à la consultation populaire. En cas de rejet par le peuple, la Constitution en vigueur ne sera pas changée. Après l'adoption du rapport de la Commission PAJ, les députés disposent de 24 heures pour déposer leurs amendements. La commission, dirigée par les députés André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, dispose quant à elle de 48 heures supplémentaires pour les intégrer avant l'éventuelle adoption finale du texte.
Réagissant au retrait des députés du groupe parlementaire Ensemble pour la République des travaux sur la proposition de loi relative au référendum, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, appelle au maintien de la sérénité au sein de l'hémicycle. Il affirme que l'Assemblée nationale poursuit dans le calme sa mission de législation au service de la République. Aimé Boji souligne également que cette proposition de loi vise à doter les souverains primaires d'un cadre juridique clair, lui permettant de se prononcer démocratiquement sur les grandes questions engageant l'avenir de la nation. Le centre de santé de Lokando à Kindu traverse une période difficile. Les problèmes de prise en charge des patients s'y accentuent faute de matériel adéquat. Selon son médecin directeur, le bloc opératoire est particulièrement touché, ce qui fragilise le fonctionnement de l'établissement et limite l'accès des malades à des soins appropriés. Face à cette situation, le docteur Hervé Tchelaluka lance un appel aux autorités, aux partenaires et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide au centre. Reportage de Florence Kizalunga.
Outre le manque de matériel médical, le médecin directeur évoque également l'absence d'approvisionnement régulier en médicaments, ce qui complique davantage la prise en charge des patients. Docteur Hervé Tchelaluka.
Dans notre aide de santé de Locando, la difficulté réside plus précisément au niveau de la prise en charge des malades et surtout dans le bloc-up. Le matériel qu'on a ont déjà vieilli. Depuis qu'on avait réceptionné le dernier kit, c'était à l'époque de Maman Olive, puis lors, il n'y a pas encore d'autres matériels. Sur les 23 agents qu'on a au niveau du centre de santé de Locando, il n'y a que 3 personnes seulement qui sont prises en charge par les gouvernements. Les gens puissent continuer toujours à nous aider et surtout à nous prendre en charge. Charge et connaître aussi quelques difficultés qu'on a en train de traverser. Surtout du côté matricule, côté prime de risque, c'est ça un casse-tête au niveau de notre aide de santé. Régulariser seulement le barème salarial des agents, aussi tenir compte de l'aide de santé de Locando.
Les centres de santé de Locando se trouvent à plus de 50 km du chef-lieu provincial et le mauvais état de la route rend encore plus difficile le référencement du malade. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, alors qu'un accord semble à portée des mains depuis plusieurs jours entre les États-Unis et l'Iran, Israël intensifie ses opérations au Liban. Le cessez-le-feu qui n'en a que le nom ressemble de plus en plus à la guerre. Ce mercredi 27 mai, l'État hébreu a ordonné l'évacuation de la quasi-totalité de la ville de Tyr à 20 km de la frontière, obligeant des milliers de Libanais à fuir pour la énième fois les bombardements. La guerre et le cessez-le-feu ont fait plus de 3185 morts d'après les autorités libanaises, des morts auxquelles il est impossible de rendre hommage dignement.
L'invité.
Véron Monsengo Omba a été élu le 20 mai 2026 président du nouveau comité exécutif de la Fédération Congolaise de Football, Association FECOFA. À l'issue de son élection, il a promis une réforme en profondeur pour relancer un secteur fragilisé par des crises de gouvernance à répétition. Dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi, les intervenants se sont penchés sur les défis qui attendent le nouveau comité exécutif de la FECOFA. On les écoute au micro de Guy Maté Tsongo.
José Dayoni, vous êtes vice-président de la Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA. Quand vous suivez, n'est-ce pas, ces reportages, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à votre mandat. Mais à votre avis, quels pourraient être les défis auxquels vous pourriez, n'est-ce pas, être confronté pour répondre à ces attentes?
Je crois que nous nous sommes organisés pour pouvoir représenter un programme ambitieux et nous pouvons assurer à tous les amoureux du ballon que par rapport à ce programme, nous allons faire ce qu'il faut pour redorer l'image du football congolais.
Concrètement ?
Concrètement, nous allons commencer par exemple pour le football de jeunes, restructurer le football de jeunes, organiser de meilleurs championnats, essayer de professionnaliser les clubs d'élite, essayer de faire également les infrastructures convenables pour la pratique du football, améliorer l'arbitrage en instaurant le système de recyclage permanent pour pouvoir mettre les arbitres à l'abri de toute tentative et de professionnaliser ce métier d'arbitrage.
Et cette question des financements du football ainsi que les sponsoring, comment peut-on relever ces défis pour une fédération dont l'image, n'est-ce pas, et la crédibilité posent problème aujourd'hui?
Vous savez, pour que nous puissions avoir des partenaires, parce qu'il y a des sponsors qui attendent, mais pour mieux le faire, il faudra que nous puissions montrer notre sérieux dans la pratique du football, mettre un peu des moyens et ensuite les sponsors pourront suivre pour nous permettre de mieux organiser le football dans notre pays.
La question des infrastructures est aussi un des défis quand on se rappelle qu'on avait dans ces pays misé beaucoup sur les stades municipaux. Où en est-on avec ces projets, Monsieur José Dayoni?
Je crois que, comme vous le savez, le problème des infrastructures, c'est pas un problème qui regarde directement la Fédération Congolaise de Football. Nous allons nous retourner au niveau de la tutelle, c'est-à-dire au niveau du ministère des Sports, pour qu'ensemble nous puissions lui présenter des projets qu'il pourra réaliser pour pouvoir donner des infrastructures dans toutes les provinces, dans les 26 provinces, pourquoi pas dans les 145 territoires que regorge notre pays.
Merci Frédéric Kitenge Kikumba, vous êtes manager du tout-puissant Mazembe. Pour vous, quels sont les défis que l'actuel comité de la FECOFA devrait relever pour promouvoir le football congolais?
Bien, merci. Moi, je m'oppose déjà au vice-président José Dayoni. Je m'oppose déjà à lui, à ce qui concerne les sponsors. Non, monsieur le président, laissez les sponsors tranquilles. Ce n'est pas le moment d'aller, je m'excuse le terme, d'embêter qui que ce soit. Personne ne peut donner son argent dans le football congolais aujourd'hui. vous allez jouer où, quand et comment. Comment vous allez programmer un match sur le stade de Kananga ou de Tchikapa? Quel sponsor va vous sponsoriser ce match-là? Le plus gros défi, ce ne sont pas les moyens, c'est la volonté de bien gérer le football congolais. Parce que vous allez avoir tous les moyens possibles. Il y a un match qui oppose 20 clubs à Aigle du Congo, mais vous choisissez les arbitres qui vont vous donner un résultat déjà prévu à l'avance. Et jusqu'au moment où je vous parle, aucune sanction n'a été mise sur le théâtre que j'ai vu lors de ce match-là.
Merci Pierre-Célestin Kavala Monambouy, vous êtes analyste sportif et président de l'association des journalistes sportifs du Congo. Pour vous également, quels sont les défis auxquels devrait s'attendre l'actuel comité exécutif de la FECOFA?
Aussitôt élu, ce comité doit faire face à un défi de gouvernance. Moi, je retiens que la première gouvernance est d'ordre éthique. Le football congolais a besoin de refaire l'éthique morale avec le monde du sport, l'amitié qui doit être restaurée, l'égalité de chance pour les compétiteurs et la bonne gestion des finances. Les défis à relever également vis-à-vis du monde du sport, c'est d'abord vis-à-vis des athlètes, des compétiteurs. Quand pourra-t-on sortir du ghetto? Du football des masses vers le sport d'élite. Les états généraux du sport d'il y a 2-3 ans ont souligné ce fait qu'il faut sortir le football du ghetto. J'ai suivi religieusement le programme du président Mosengo, mais je n'ai pas décelé quelque part qu'à côté du programme, il y a un plan d'exécution pour 2-3-4 ans. Première année, on fera ceci. Deuxième année, on fera cela. Et en fin du mandat du comité actuel, on aura atteint cet tel objectif.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal du matin, préparé pour vous par Lievin Bouinga Vubu et mis en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.